France Culture.
Vous écoutez les nuits de France Culture. La nuit, Marc Chagall se poursuit en compagnie de Merette Meyer, petite fille du peintre et vice-présidente du comité Marc Chagall, et de Ambre Gauthier, docteur en histoire de l'art, chargée du catalogue raisonné de l'œuvre de Chagall. Dans la première partie de cette nuit, nous avons évoqué le monde dans lequel est né Marc Chagall, ses années de formation, son premier séjour en France et son retour en Russie en 1914, avant qu'il ne décide de s'installer en France en 1923. Quelle vision Chagall a-t-il alors de la production artistique de ce début de XXe siècle, de la voie qu'il entend suivre lui-même, Ambre Gauthier ?
Alors, au tout début des années 20, donc Marc Chagall revient en France et se réinstalle en 1923. Donc, entre-temps, il est passé par Berlin en 1922, où il a acquis certaines techniques et certaines habiletés pour la pratique de la gravure. Donc, ce qui est intéressant pour notre sujet du noir et blanc, parce que c'est vraiment aussi à partir de ce moment-là qu'il va maîtriser une technique lui permettant aussi de pratiquer l'œuvre gravée et qui va bien sûr avoir une influence sur l'œuvre picturale postérieure. Et en tout cas, en rentrant en France au tout début de ces années 20, ce qui l'intéresse, comme il le dit lui-même dans ses écrits, c'est de ressentir la lumière et les différentes textures des paysages français. Donc on a tout ce besoin aussi de réappropriation d'un pays qu'il a quitté en 1914 et aussi ce besoin de s'inscrire dans une culture, donc connaître la culture française, connaître ses écrivains, ses peintres, et par sa propre pratique picturale, en fait faire partie aussi de ce paysage artistique et aussi social français.
Il y a une rencontre déterminante, c'est celle du marchand d'art Ambroise Vollard.
Oui, tout à fait. Donc il rencontre le marchand d'art Ambroise Vollard, qui lui confie assez rapidement des projets éditoriaux. Donc Marc Chagall commence à travailler sur un projet pour les illustrations de la Bible et petit à petit sur un projet sur les illustrations des Fables de La Fontaine. Donc pour ce faire, dans sa démarche artistique et son procédé, sa genèse de l'œuvre gravée, il va commencer par faire des gouaches en couleur. Et petit à petit, c'est la couleur qui va conduire au noir et blanc. Donc on se retrouve en fait dans le schéma opposé de ce qu'on aura dans l'après-guerre et dans les années 50-60, où là, le noir et blanc sera déterminant pour l'approche de la couleur. Et ces deux projets éditoriaux vont être arrêtés par la mort d'Ambroise Vollard et seront ensuite repris dans les années 50 par l'éditeur Thériade.
On dit communément que la peinture de Chagall de cette période de l'entre-deux-guerres est une peinture plus sereine, plus apaisée. Que peint Chagall dans ces années-là, Merette Meyer ?
Chagall peint autant de compositions qui peuvent être lues comme des compositions sereines que des compositions qui amènent à avoir des lectures très politiques et sociopolitiques. Il y a quand même des œuvres comme La Chute de l'Ange
qui, avec la figure de l'ange rouge qui apparaît
l'ange rouge, sur laquelle il travaille à partir de 1923, donc à partir du moment qu'il y a les premières manifestations d'antisémitisme en Europe. Et on voit aussi des compositions qui peuvent être lues comme des compositions sereines, mais qui sont des hommes coqs devant un ciel très sombre de Vitebsk qui traverse un paysage. On peut avoir des grandes bêtes, des vaches à l'ombrelle, qui ont été considérées comme des compositions féeriques, de fables, alors que ce sont vraiment toujours des représentations de juifs errants. Que ce soit un bouquet, que ce soit un animal, que ce soit un violoniste qui traverse un ciel ou qui s'élève pour traverser un ciel et qui quitte un pays à la recherche d'une terre d'accueil, c'est plutôt une époque qui est marquée et imprégnée par une lecture tout à fait consciente de ce qui se passe. Alors que, bien entendu, les bouquets de fleurs, le paysage français qui imprègne aussi les œuvres d'une nouvelle compréhension de lumière, d'une nouvelle compréhension de transparence, bien entendu, ont amené à considérer que cette œuvre était uniquement sereine.
Chagall obtiendra la nationalité française en 1937 avant d'être obligé de s'exiler aux États-Unis en 1941. Pour lui, qui a toujours été très attentif, très curieux de ce qui se passait dans l'art et au-delà, Comment ces années passées aux États-Unis ont-elles influencé son regard, son travail pictural, Ambre Gautier ?
Alors, les années aux États-Unis, donc Marc Chagall arrive à New York en 1941 et il y repart fin de l'année 1947, début 1948, donc pour rentrer en France. Ce sont des années qui sont extrêmement denses, extrêmement riches en expérimentation artistique, en rencontres. Évidemment, ce sont ce qu'on a pu appeler par la suite des années sombres, parce que évidemment le contexte politique est extrêmement présent et Chagall est au courant de ce qui se passe en Europe. Il a toujours bien évidemment un œil, une oreille qui reste en Europe et par les cercles artistiques qu'il côtoie à New York, assez engagé politiquement, les cercles culture yiddish et par sa femme aussi Bella, il a des nouvelles fréquentes et très récentes de l'Holocauste et de toute la tragédie que subit le peuple juif en Europe. Donc c'est vraiment une période qui est extrêmement nuancée. On a bien évidemment ce poids, ce contexte politique très présent. Et en même temps, de la part de Chagall, on a ce besoin et cette volonté de se renouveler et de transcender cette période sombre pour en faire autre chose. On est toujours dans cette recherche d'autre chose. Donc à ce moment-là, aux États-Unis, Marc Chagall va commencer à travailler sur des projets pour des décors de scènes. Donc on va avoir le projet à l'écho en 1942, Ballet à l'écho, et en 1945, celui de l'oiseau de feu. Donc bien évidemment, on n'est pas du tout sur un enfermement, sur une tristesse, sur un repli sur soi-même, comme il en a été question dans de nombreuses publications. Mais on a ce besoin en tout cas d'évoluer, de continuer, de transcender cette tristesse pour faire autre chose, pour aller vers la lumière.
Meret Meyer.
Oui, je voulais revenir vers la naturalisation qui est intervenue grâce à l'aide de Jean Paulhan.
Puisqu'une première fois, elle lui avait été refusée.
Oui, elle a été refusée deux fois. Mmh. Donc, on peut imaginer le contexte même personnel de grande inquiétude, étant donné qu'il était entouré quand même de manifestations antisémites, que les journaux en regorgeaient, que les salons en parlaient, bien entendu. Donc, ils étaient aussi isolés quelque part dans cette conscience qui devait essayer de se battre d'une manière artistique. Mais c'est assez difficile de pouvoir, d'avoir pu s'ancrer en France, parce que s'ancrer en France, comme le disait Ambre Gautier, c'est pas uniquement être en France, mais et pas uniquement sillonner le paysage français, mais c'est vraiment comprendre fondamentalement ce qu'était la terre française. Et les voyages servaient à ça. Donc, il avait l'impression de pouvoir, d'avoir pu rentrer au cœur du paysage français, au cœur des Français, au cœur de la nature et de l'art français, et voir que tout d'un coup, il y avait cette perspective d'être chassé ou de trouver un moyen de pouvoir s'exiler et se sauver était quand même très très difficile, d'autant plus qu'il était finalement naturalisé, mais il partage ce sort avec de nombreux artistes ou écrivains qui sont devenus soit allemands, soit français et qui pensaient, espéraient être à l'abri. Donc il continuait vraiment de créer des compositions comme on pense à Solitude, l'œuvre qui se trouve au musée d'Israël, qui représente une vache blanche, à côté de laquelle est assis un juif en grand désarroi sur un fond de ciel très mouvementé et dans lequel il y a un ange qui est en train de se dissiper. Donc ces compositions qui ne s'appelaient pas à l'époque Solitude, c'est un titre qui a été donné uniquement en 51 quand Chagall a donné cette œuvre au musée d'Israël. Il a réalisé, c'est un des exemples, il a réalisé de nombreuses compositions à connotation politique, bien sûr silencieuse si on peut dire, en donnant des titres qui étaient passe-partout. Donc cette œuvre s'appelait La Vache Blanche. C'était pas vraiment un titre qui pouvait susciter le moindre doute ou la moindre crainte auprès des administrations. Il l'a fait aussi avec des compositions de crucifix, simplifiée qu'il appelait tout simplement composition. Il est vrai aussi que à l'époque les œuvres n'étaient pas vraiment reproduites dans les petits catalogues de galeries où il n'y avait pas du tout de catalogue. Donc il essayait à nouveau de susciter une arme comme avec le noir pendant la Deuxième Guerre, à rendre attentif, à attirer l'attention des autorités, à attirer l'attention de ceux qui étaient les concitoyens peut-être un peu passifs, à devenir conscient de la situation. Donc il a toujours eu cette démarche de vouloir se défendre avec la voix de l'art.
Et d'ailleurs, durant cette période américaine, donc vous l'avez évoqué, une représentation s'impose dans sa peinture, c'est celle du Christ en croix.
Oui, pendant les années de guerre qu'il a heureusement pu passer aux États-Unis, il dédouble, il multiplie les représentations du Christ en croix, qui est un Christ en talit d'ailleurs, et qui est une union entre un Christ et le martyr juif. Ce n'est pas du tout un hommage rendu au christianisme, bien entendu, mais le Christ en croix devient vraiment le symbole de la souffrance, même si la première crucifixion, il l'a peinte en 1908, donc bien avant tous ces phénomènes, mais comme il a déjà été victime de pogroms où toute la famille et la région de Vitebsk, les persécutions quotidiennes ou décennales étaient ancrées dans l'histoire des familles et la sienne très particulièrement.
Quand en 1948, Marc Chagall revient vivre en France après son exil américain, il a un peu plus de 60 ans. Quel homme est-il alors et quel artiste est-il, Ambre Gauthier ?
Alors en effet, il a un peu plus de 60 ans. Donc il vient de passer les années précédentes aux États-Unis, qui ont été des années, comme Merette l'a souligné, des années extrêmement formatrices et en même temps éprouvantes. Donc sa femme, Bella Chagall, est décédée en 1944. Quand il revient en France en 1960, on peut imaginer qu'il porte tout ce bagage en lui et en même temps qu'il retrouve la France, donc qui pour lui symbolise une terre d'espoir, mais aussi une terre à reconquérir. Donc un peu comme en 1920, quand on a parlé de cette espèce de besoin de refaire partie d'une culture et de se réapproprier une terre, on va avoir un phénomène un peu similaire, mais qui bien sûr va être beaucoup plus profond et aussi beaucoup plus sombre de par l'expérience de la Seconde Guerre mondiale. Donc dans un premier temps, quand il rentre en France, donc il s'installe à Orgeval, avant progressivement de s'installer définitivement dans le sud de la France, à Vence et à Saint-Paul-de-Vence. Donc dans son art, ce qu'on a en tout cas essayé de démontrer dans l'exposition, il va y avoir une période où le noir et blanc va reprendre une part artistique et symbolique très importante. Donc la reconstruction symbolique de la France, mais aussi de son être, de ses affres, de ses tourments les plus profonds, va passer par cette expérimentation du noir et blanc, pour se réapproprier la couleur.
Sur le plan personnel, je dirais même peut-être intime, et par rapport à son travail d'artiste, quel sens avait, d'après vous, pour Chagall, le choix de s'installer, de se fixer à Vence et ensuite à Saint-Paul-de-Vence, Merette Meyer?
Son premier choix était de toute façon de revenir en France et il était bien entendu désolé que sa femme, notre grand-mère Bella, ne pouvait pas le suivre, étant donné qu'elle était profondément attachée aux valeurs françaises et tous les deux d'ailleurs étaient très éloignés au moment où ils étaient contraints à partir en Amérique, qu'ils ont saisi cette dernière chance juste avant le tout dernier moment. Ce monde américain leur parlait pas du tout. D'abord, ils parlaient pas la langue, donc c'était assez difficile, et de pouvoir ensuite uniquement s'entretenir en yiddish, en français, avec Pierre Matisse, qui était devenu son marchand aux États-Unis, ou le russe avec de nombreux amis, limitait peut-être aussi certains contacts, même si il était très éveillé et à l'écoute de tous les mouvements artistiques qui avaient lieu aux États-Unis. Au moment de son retour, comme disait Ambre Gauthier, quand il est revenu et s'est installé à Orgeval avec Virginia McNeil, sa compagne, qu'il avait quittée après 7 ans de vie commune, il voulait rejoindre la Côte d'Azur, d'autant plus que Thériade avait sa maison à Saint-Jean-Cap-Ferrat, donc il était entre Paris et Saint-Jean, et il considérait que la côte, mais surtout cette lumière méditerranéenne, c'était moins le lieu en soi, même si Vence, bien entendu, était lié à l'œuvre d'Henri Matisse, pour laquelle il avait énormément d'admiration, et il souhaitait surtout pouvoir à nouveau s'investir comme il avait fait dans les années 20 et 30 dans ce paysage français en approfondissant vraiment les traditions ancestrales que cette région pouvait lui offrir, notamment le travail de la pierre et de l'argile, ce qu'il a expérimenté à travers la sculpture et la céramique.
Comment se traduit sur ces toiles l'alchimie qui s'opère dans la rencontre de la Provence avec le monde juif de Biélorussie, à présent englouti, Ambre Gauthier?
Alors, dans ces années méditerranéennes, on va réellement trouver cette fusion en fait entre un monde, le monde de son enfance qui se réfère aussi au passé, genre ce monde russe, ce monde juif, avec des paysages bien évidemment qui sont des paysages méditerranéens. Donc on va avoir des vues de Nice, des mimosas, des lauriers roses, la mer, le soleil resplendissant, et finalement ces deux formes d'influence vont se côtoyer sur les toiles et finalement de manière très naturelle. C'est-à-dire que dans très nombreux cas, on a des espèces de glissements finalement d'un lieu à l'autre et des fusions de lieux. Donc par exemple, Vitebsk va être représenté sur certaines toiles, mais va fusionner avec la silhouette de Saint-Paul de Vence ou de Vence. Donc finalement, ce qui est intéressant d'analyser, même de se questionner, c'est aussi finalement de savoir ce que Chagall retient de ce monde russe, de ce monde juif, et de quelle part finalement de transformation intervient avec ces années méditerranéennes. Donc on n'est pas du tout sur des influences qui sont séparées, mais on va avoir vraiment des fusions stylistiques, des fusions de mémoire, et même ce qu'on pourrait appeler des fusions mentales. Parce que finalement, pour lui, il y a des symboliques de lieux, qui sont des lieux dans lesquels il se sent bien, des lieux où il peut créer, des lieux qui aussi parfois se mêlent à la symbolique de la Jérusalem céleste, et finalement, qu'il recompose dans son esprit et sur ses toiles.
Mérette Meyer.
Oui, ce qui est intéressant, ce qu'on a essayé de démontrer dans cette exposition, c'est que cette iconographie, même si on croit la retrouver et qu'on a l'impression qu'elle est toujours identique ou similaire, elle change de telle manière que ces deux univers se traduisent par des techniques différentes. Donc, ce passé peut se traduire, par exemple, par une dissipation, par une transparence très particulière, une grisaille utilisée ou appliquée, qui fait que de graver à l'intérieur de cette surface qui devient transparente, c'est déjà un acte de s'inscrire dans un présent, mais en faisant ressortir, bien entendu, ce qui est sous-jacent, donc ce qui est le passé. Donc ces glissements entre les univers, ces glissements qui permettent des dissipations et presque des univers qui deviennent flous et qui permettent de voir à travers, de voir plus loin dans le au-delà qui devient peut-être un demain et qui signifie vraiment une image de l'avenir, nous renvoie toujours vers quelque chose qui a existé dans le passé, mais sans prendre nécessairement la forme iconographique à laquelle on était habitué auparavant.
Peu de temps après son retour en France, au début des années 50, Marc Chagall entreprend la création d'un grand cycle intitulé « Messages bibliques ». Pourquoi fait-il don de ce message biblique à l'État français en 1966 et pourquoi spécifiquement de cette œuvre, Mérette Meyer?
Oui, cette œuvre, le message biblique qui est constitué de plusieurs dizaines de...
De 17 tableaux
17, oui, mais plusieurs dizaines de, oui. d'œuvres qui font partie de deux donations différentes, parce qu'en dehors des 17 grands tableaux, il y a de nombreuses esquisses préparatoires, il y a des dessins, des pastels sur papier, et de nombreuses œuvres sur toile, donc c'est tout un corpus qu'il réalise à partir de 1954 et qu'il commence d'abord à Vence et qu'il termine à Saint-Paul-de-Vence. Il est important pour Chagall pas du tout de laisser une trace religieuse, ce qu'on pourrait peut-être être tenté de croire que c'est un témoignage religieux, que Chagall veut absolument signifier son appartenance à la religion juive. Au contraire, les figures bibliques ont des faciès, des apparences, des mouvements, des proportions très humaines, et au contraire, il y a une transgression, une transversalité entre les lieux, les temps, les générations, les genres aussi, pour appuyer sur la signification symbolique de ce message biblique. Donc c'est plutôt cette pédagogie symbolique dont on a parlé auparavant qui revient très précisément à travers ce grand cheminement du message biblique. C'est d'ailleurs le premier cycle dont le public et les critiques ont pris connaissance en disant « Ah oui, donc avant de réaliser les 17 œuvres, il y a de nombreuses esquisses préparatoires, il n'y a pas uniquement ces grandes toiles, mais c'est la toute première fois que la critique a rencontré l'évidence qu'il y avait vraiment un cycle et que Chagall construisait ce message qui était constitué de plusieurs facettes. Donc c'est surtout cette symbolique qui l'a amené à réaliser cette œuvre et qui l'a d'ailleurs accompagné du vœu de pouvoir la donner à une ville et à un pays qui pouvait construire un musée. Donc c'est pas seulement un cycle qui a été réalisé, qui voulait d'ailleurs d'abord donner à la ville de Vence, et pour diverses raisons cette donation n'a pas pu se faire alors que le cycle était toujours encore en gestation, mais c'est André Malraux qui a décidé de faire construire le premier musée national à un artiste vivant, ce qui était vraiment sensationnel, bien sûr, pour l'artiste. Et c'est à ce moment-là que on aurait pu se rendre compte aussi de l'intérêt que Chagall avait vraiment pour l'architecture, même si un architecte a été désigné, bien sûr, par les musées de France, qui a travaillé étroitement avec l'artiste aussi, avec son épouse, avec notre mère, Ida Chagall, toujours pour essayer de voir au plus près comment les espaces pouvaient se définir, et surtout de réaliser le premier auditorium qui était associé à un musée national. Et cette architecture, ce qui est absolument étonnant aujourd'hui, d'abord, elle a l'air d'être d'aujourd'hui, donc elle n'affiche pas du tout ses 45 ans, oui, 45 ans à peu près, donc inaugurée en 73 par André Malraux. C'est une architecture qui, et c'est exactement ce que Chagall souhaitait, même s'il ne l'a écrit nulle part, il n'y a pas non plus de déclaration de sa part qui en témoigne, c'est d'articuler un espace autour de ses œuvres. C'est pour faire vivre et rayonner ce cycle et permettre à des espaces de recevoir des œuvres qui peuvent être mises en relation avec ce cycle. L'auditorium est d'ailleurs décoré, habité par de magnifiques vitraux, ce qui rend vraiment le musée c'est vraiment un ensemble tout à fait exceptionnel qui va au-delà d'un musée monographique. C'est une création d'un artiste conjointement avec un architecte qui reflète vraiment l'intérêt synesthétique de l'artiste tel qu'on voudrait le voir aujourd'hui.
Cette période des années 50 aux années 70 a été pour Marc Chagall une période de nouveaux défis artistiques et techniques, nous l'avons dit, avec les très nombreuses réalisations qui lui sont demandées en différents points du monde, que vous allez d'ailleurs peut-être nous rappeler. Si certains se sont parfois plu à le voir comme un artiste installé, ne cherchant pas à se renouveler, relever ces défis, souvent risqués, était au contraire bien le signe d'un artiste sans cesse en recherche et en quête de découverte de nouvelles voies, Ambre Gauthier.
Alors Marc Chagall, dans ses années méditerranéennes, les œuvres qui nous sont parvenues nous livrent vraiment l'image d'un artiste explorateur. C'est un artiste en perpétuel renouveau. Il faut s'imaginer dans l'atelier à Vence ou à Saint-Paul-de-Vence, il faut s'imaginer l'artiste travaillant en même temps plusieurs techniques, plusieurs supports. Donc dès le début des années 1950, il expérimente autour de la céramique. En parallèle, il commence des sculptures, donc marbre, pierre de Rogne, bronze. En parallèle, il y a tout le travail petit à petit sur les vitraux qui s'effectuent. Après, on a aussi les collages qui vont donner naissance à de grandes huiles sur toile. Donc parfois, les maquettes pour les vitraux sont aussi des collages.
Il y a la tapisserie et la mosaïque aussi pour le musée.
Pour le message biblique, pour l'université de Nice aussi. Et c'est vrai que finalement, on a tous ces projets qu'il faut s'imaginer créer simultanément. Marc Chagall n'est pas du tout un artiste qui expérimente une technique, une par une, et qui après revient à une autre. Et finalement, le jeu de toutes ces techniques simultanées va être que ces expérimentations techniques vont nourrir les peintures et les huiles sur toile. Donc on a ces constants allers-retours entre les techniques qui font une œuvre, bien évidemment, qui est difficilement caractérisable. C'est une œuvre qui est polymorphe, qui est multiple et qui s'enrichit de chaque expérimentation.
Dans les archives que nous écoutons dans cette nuit, nous entendons Marc Chagall lors de grandes expositions qui lui étaient consacrées, lors d'inaugurations officielles au Louvre, à l'Opéra. Chagall honoré, distingué. S'il ne semble pas indifférent à tout ça, il ne semble jamais en être dupe pour autant. On l'entend recevoir tout cela avec humour, comme s'il avait toujours gardé une distance avec les honneurs, les distinctions dont il était l'objet, Mérette Meyer.
Oui, bien entendu, il regardait ça avec beaucoup d'humour, mais je pense quand même que c'est aussi un jeu de prétendre que c'est quelque chose qui le touche pas énormément. Il n'était pas à la recherche vraiment des honneurs, parce que c'était pas une finalité en soi, mais de ne pas avoir d'honneur, de pas avoir de reconnaissance aurait été vraiment une grande tristesse pour lui et l'aurait désavoué dans sa recherche. Bien entendu, d'entendre les commentaires positifs, enthousiastes du public, des critiques lui ont fait énormément plaisir, mais il s'est jamais reposé là-dessus. Ce qui a toujours été, en tout cas en ce qui me concerne, aussi un modèle de voir à quel point c'est important de rester soi-même. Ce qu'il a fait toute sa vie, ne jamais adhérer au moindre mouvement. Pourquoi est-ce qu'il adhérait plus aux louanges, aux compliments qu'à des mouvements artistiques? Au contraire, continuer sa voix, bien sûr écouter ce que les gens disent, être sensible aux échos, ça il a toujours été, comme il a été sensible aux mouvements artistiques, de voir ce qui se faisait en parallèle pendant que lui il exposait au Louvre, quelle était la production artistique de l'époque, même si c'est pas prononcé, mais on le voit dans l'œuvre que ce n'est pas du tout, ce sont pas des mouvements qui ont passé inaperçus ni dans sa perception ni dans son âme, sans vouloir dire qu'il aimait ce qu'il voyait, mais en tout cas il a essayé d'en tenir compte pour pouvoir devenir aussi critique par rapport à sa propre œuvre personnelle. Donc il a été, disons, toujours le plus grand critique personnel, même s'il était entouré de personnes qui faisaient des compliments, qui allaient peut-être pas au fond des choses, qui ne tenaient pas compte de son intérêt pour l'espace, qui ne tenaient pas compte de son intérêt, son engagement, surtout à partir des années 50. On l'a considéré comme quelqu'un, un artiste qui s'est jamais transformé, qui est resté le même, qui est décoratif. Ça, c'est quand même un terme qui revient assez fréquemment dans les critiques. Et l'exposition de 95 au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris sur les premières années a été une révélation pour le public, mais aussi pour la critique. Et ensuite, suite à cette exposition, il y a eu bien sûr la thèse d'après laquelle on disait que Chagall est mort dès son arrivée en France. Donc toutes les expositions ces dernières années essayent quand même de rétablir peut-être cette image de mort artistique en 1923 et d'essayer de déchiffrer, de déceler des valeurs artistiques qui le mettent dans une gestation d'artiste très très conscient et surtout à l'écoute de son temps.
Mérette Meyer et Ambre Gauthier, merci. Nous nous retrouverons dans un peu moins de 2 heures, juste avant la fin de cette nuit consacrée à Marc Chagall. Après avoir écouté Chagall et le spectacle Où du cirque à l'opéra, un numéro de Présence des Arts proposé par François Le Targa et Martine Cadieu en 1984, le premier et deuxième temps de Musée Marc Chagall à Nice, le message biblique de Chagall, œuvres et chefs-d'œuvre en France par François Léritz en 1980, et enfin Maison d'études, l'héritage d'un monde juif disparu par Victor Malka en 2008. La nuit Marc Chagall se poursuit sur France Culture.